Prends le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Prends le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Prends le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, prenez toujours quelques minutes pour replacer le corps en méditation. Quant à l'esprit, si vous méditez depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis quelques mois seulement, placez votre esprit sur un support tel que la respiration. Développez la vigilance et la conscience du moment présent. Laissez tomber le passé même proche, et également le futur. Faites l'expérience de l'instant présent. Ne portez aucun jugement, aucune analyse sur les phénomènes dont vous êtes conscient. Mais ne vous laissez pas distraire par ces phénomènes. Donc en posant votre esprit, votre attention sur un support de méditation, cela vous aidera à être conscient si vous êtes distrait ou non. Pour les personnes qui méditent depuis au moins un an, essayez de méditer directement sans support, c'est-à-dire de placer, de demeurer dans cette conscience claire, vive, qui perçoit tous les phénomènes, mais qui ne s'attache ni ne rejette aucun d'entre eux. Avant de poursuivre l'enseignement, un petit rappel. Dans la prière qu'on récite en début de session, on commence par le refuge, c'est-à-dire la confiance que l'on met dans les trois joyaux, ce qu'on appelle les trois joyaux. Mais ensuite, on développe la bodhicitta, ce qu'on appelle la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et on dit, par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
Par quelque chose, le coup de
ça fera rien, merci, c'est gentil. On devrait plutôt garder le mot sanskrit paramita au lieu de le traduire par vertu. Si on le traduit, on devrait traduire par vertu transcendante. Parce que paramita a le sens d'aller au-delà, de traverser. Traverser quoi? L'océan du samsara. Donc, d'atteindre la rive, on va dire, de l'éveil. Enfin, ça a vraiment ce sens-là. Alors maintenant, quels sont ces six paramitas après celle du don? On cite simplement le don, mais les anciens, pas trop anciens quand même. Parce que... Après le don, qu'est-ce qu'un bodhisattva va mettre en pratique? Ces paramitas, ces six paramitas, sont vraiment la colonne vertébrale pour la pratique d'un bodhisattva. Nous sommes tous des bodhisattvas ici. Que mettez-vous en pratique? À la fois pour la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Donc on commence par le don, et ensuite... Alors, les anciens anciens? Comment?
La patience, les...
La patience, oui, il y a quelque chose avant la patience à développer. La conduite éthique, l'éthique, le don, l'éthique, Ensuite, la patience. Après la patience, comment? Plus que ça, non, c'est plus que ça, ça fait partie de l'octuple sentier, l'effort juste. Mais là, c'est la persévérance, la diligence, la persévérance. Ensuite, non, la compassion, c'est comment? Ça baigne le Mariana, le grand véhicule. Comment? Oui, la concentration, ce qui est mal traduit aussi par concentration, puisque en tibétain c'est samten, et samten littéralement c'est esprit stable. Donc on pourrait dire la non-distraction. Donc ces cinq premières paramitas concernent la bodhicitta relative, le don, l'éthique, la patience, la persévérance et on va dire la concentration. Et bon, la dernière va concerner la bodhicitta ultime, donc c'est ce qu'on voit souvent comme traduction par sagesse. Mais les Tibétains font une grande différence entre la sagesse en tant que moyen et la sagesse réalisée. Or, c'est une vertu qui nous conduit à réaliser l'éveil. Donc, c'est la sagesse en tant que moyen. Donc, on va traduire par connaissance transcendante. Connaissance transcendante. En tibétain, connaissance transcendante, c'est sherab, excellente connaissance, littéralement. Et quand cette connaissance est réalisée, c'est yéché. Dans les deux cas, vous avez la racine ché, qui veut dire la connaissance. Alors maintenant, autre question. Quand nous pratiquons les six paramitas, nous devons associer toujours la sixième aux cinq premières. Quand nous pratiquons le don, nous devons associer la connaissance transcendante à la pratique du don. Sinon, le don n'est qu'une vertu simple. Il faut que associer la sixième paramita pour que le don, par exemple, devienne véritablement une paramita. Comment?
Ça permet de lâcher de ce qu'on donne, de qui on donne, et tu fais des dons.
Bien. Alors, c'est voilà, c'est être libre des trois formes de saisie. Ce qu'on voit dans certains textes, être libre de la triplicité. Les trois formes de saisie. C'est-à-dire, on ne doit pas développer de saisie par rapport à c'est moi qui donne. Voyez comme je suis un bon pratiquant, n'est-ce pas? J'accumule beaucoup de karma positif, etc. Là, il y a une grosse saisie si on donne en récupérant cela. Mais on ne doit pas non plus développer de la saisie par rapport au destinataire, à qui s'adresse la paramita. Or, c'est intéressant de noter comment notre esprit agit quand on pratique par exemple le don pour quelqu'un dans la rue. Est-ce qu'on le pratique vraiment comme ça, gratuitement, ou est-ce qu'on le pratique parce qu'on est touché par cette personne, ou parce qu'il y a un élément qui fait que, eh bien là, je suis plus sensible. Et puis la troisième forme de saisie qu'il faut abandonner, c'est la saisie par rapport à l'objet que l'on donne. Voilà. Donc, pour les cinq premières paramitas, essayez d'associer ces trois non-saisies dans la pratique de ces cinq paramitas. À ce moment-là, la vertu que vous pratiquerez sera véritablement une paramita, elle vous conduira jusqu'à l'éveil. Sinon, elle permet d'accumuler du karma positif, mais sans aller plus loin, si vous... ce qui est déjà pas mal, hein? Mais voilà. C'est bon? On peut continuer le texte alors. Personne n'enregistre là. Ah si, très bien. Donc nous sommes toujours dans le texte les 37 pratiques de Bodhisattva, justement. Alors, nous en sommes à la dixième. Je vous la lis. Quand nos mères, qui nous ont aimés depuis des temps sans commencement, souffrent, qu'avons-nous accompli par notre propre bonheur? Faire naître la bodhicitta pour libérer tous les êtres, illimités en nombre, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Je la relis. Quand nos mères, qui nous ont aimés depuis des temps sans commencement, souffrent, qu'avons-nous accompli par notre propre bonheur? Faire naître la bodhicitta pour libérer tous les êtres, illimités en nombre, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Alors, cette strophe-là, il y a toujours quelque chose à dire sur l'image, l'exemple que prennent les Tibétains, l'exemple de la mère. En Occident, il y a toujours une personne qui dit bah, moi, chez moi, ma mère, c'est pas vraiment l'archétype de l'amour, de la bonté, etc. Un Tibétain ne comprend absolument pas les Occidentaux qui disent ça. Les Asiatiques, de façon générale, ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que même si leur mère, même s'ils n'ont pas reçu d'amour ou d'affection de leur mère, leur existence est dépendante de leur mère. Vous me direz, le père y est aussi pour un petit peu quelque chose quand même. Mais la mère, pendant la gestation, pendant, au moment de la naissance, etc., tout ce qu'elle a enduré pendant tout ce temps-là, pour eux, c'est suffisant pour garder un respect et une, plus qu'une gratitude pour leur mère. En sachant aussi que pendant les 9 mois de grossesse, la mère avait le droit de vie et de mort sur nous. Et bien ça, ça suffit pour les Tibétains. Notre existence aujourd'hui, elle dépend eh bien, de notre mère. Voilà. Bon, alors pour eux, c'est évident l'image de la mère. Depuis des temps sans commencement que nous sommes dans le samsara, que nous avons repris naissance dans le samsara, eh bien, tous les êtres, à force de tourner, tous les êtres ont été un jour, ont témoigné en tout cas un jour pour nous, de la tendresse, de la protection, de la bienveillance qu'une mère peut témoigner à son enfant. Maintenant, si cet exemple-là n'est pas vraiment parlant pour certains d'entre vous, vous pouvez toujours inverser le truc et voir tout ce que vous avez fait pour vos propres enfants, tout ce que vous avez ressenti, et tout ce que vous ressentez peut-être encore, pour vos enfants, etc. Mais pourquoi on prend cet exemple? Pour dépasser notre première perception que l'on peut avoir dans une situation que l'on rencontre et dans laquelle on peut ressentir de l'indifférence, voire peut-être de l'aversion. On se dit à ce moment-là, mais si notre mère ou si notre enfant vivait la même chose, quelle serait ma façon d'être? Quelle serait ma réponse, mon comportement, etc.? Et là, ça modifierait en fait notre façon d'agir dans une situation ordinaire et automatiquement, on aurait davantage de compassion, de présence, d'écoute, de bienveillance, d'ouverture, etc. Cela montre aussi que cette bodhicitta, même si il y a ce potentiel énorme en nous, cette bodhicitta, pour se développer, ne va pas se développer toute seule par elle-même. Il faut trouver des moyens pour la développer, de façon à habituer notre esprit à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à la compassion, à s'ouvrir à l'amour, à la bienveillance, de façon à ce que cette souffrance nous devienne insupportable et que l'on se sente responsable eh bien, de la réduction, voire de l'éradication de la souffrance. Un bodhisattva, rappelez-vous, un bodhisattva est quelqu'un qui ne peut pas mettre fin à sa propre souffrance sans mettre fin à la souffrance d'autrui. Sa recherche personnelle d'éveil, ce n'est pas concevable pour un bodhisattva. Ça, c'est ce qu'on appelle la libération personnelle, c'est dans le Theravada. Mais dans le grand véhicule, un bodhisattva doit réfléchir à comment il peut faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance. D'abord par la souffrance que lui-même peut engendrer. Donc il faut absolument qu'il modifie son comportement, son attitude, par ses actes, par sa parole et par ses pensées, pour que simplement sa façon de vivre soit moins cause, voire plus cause, mais dans un premier temps moins cause de souffrance pour autrui. Ça va en accord avec son vœu de bodhisattva, avec son engagement de bodhisattva. Et il agit sur la bodhicitta relative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut mettre en place dans son quotidien pour que cet objectif devienne quelque chose de concret. mais il doit agir aussi sur la bodhicitta ultime, la sagesse, la non-saisie, la vacuité. Et ça, nous devons bien comprendre le lien qui existe entre la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Ici, en Occident, on a un peu tendance à penser que la bodhicitta, c'est surtout la bodhicitta relative. Et on va mettre en place plein de choses pour aider les êtres. Mais vous devez faire l'expérience que si il y a toujours une saisie dans l'esprit, le développement de la bodhicitta relative, c'est-à-dire de l'amour, de la compassion, etc., va forcément et rapidement avoir des limites. Donc, si nous voulons que ces limites reculent, nous devons développer la bodhicitta ultime, c'est-à-dire s'asseoir et être conscient de la saisie et apprendre à ne pas saisir ce qui s'élève dans l'esprit. On est obligé d'agir sur les deux bodhicitta. S'il n'y a pas la présence de cette sagesse, c'est pourquoi on parlait des paramitas tout à l'heure, mais s'il n'y a pas la présence de cette sagesse, de cette vacuité, de cette non-saisie, on fait ce que j'appelle en raccourci rapide de l'humanitaire spirituel. Ce qui est pas mal, hein. J'ai rien contre, hein. Ce n'est absolument pas un problème. Mais on ne doit pas se limiter à cela. Il faut qu'il y ait de la sagesse qui accompagne aussi cette bodhicitta relative. Et nous avons les moyens de travailler sur la non-saisie. C'est pas du tout comme si le Bouddha n'avait enseigné que la bodhicitta relative. Il a enseigné aussi la bodhicitta ultime. Mais pour être sûr de cela, vous devez faire l'expérience que s'il y a une saisie dans l'esprit, il y a automatiquement apparition d'un facteur perturbateur, et quand nous sommes sous l'emprise de ce facteur perturbateur, il n'y a plus de place pour l'amour, la compassion et la bienveillance. Vous devez être sûr de ça. Quand il y a indifférence dans votre esprit, comment avez-vous de la compassion pour quelqu'un qui souffre alors que vous êtes indifférent? Et pareil pour tous les facteurs perturbateurs. Et pareil pour toutes les qualités. Donc si nous voulons développer la bodhicitta relative, il faut absolument développer la bodhicitta ultime, c'est-à-dire de saisir de moins en moins. La bodhicitta a ces deux aspects et l'un ne peut pas se développer sans que l'autre se développe. Et utiliser cet exemple de la mère, hein, ou de quelqu'un en tout cas, un substitut ou quelqu'un en tout cas que l'on aime et qui a témoigné pour nous beaucoup d'amour, etc. Utiliser cette image-là en se disant « mais si c'était ma mère qui souffre, eh bien, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je réagirais ?» Et ça peut modifier notre perception et notre façon d'agir dans cette situation. Le Bodhisattva ne va pas agir uniquement à faire des souhaits, en faisant des souhaits pour ce qui se passe à 10 000 km. Ça, c'est une chose, c'est une façon de pratiquer, mais il doit pratiquer sur plusieurs plans. Il y a la bodhicitta en aspiration, faire des souhaits, d'accord, mais il y a la bodhicitta en action. Qu'est-ce que je mets en pratique, là, dans mon quotidien, là où je vis? Concrètement, comment est-ce que j'aide le voisin, la voisine, qui ne va pas bien, etc. C'est facile de faire des souhaits pour la paix dans le monde. Ça ne nous coupe pas l'appétit, en général. On continue de regarder la télé avec les news, ce qui se passe en Syrie, ou je ne sais pas quoi. Continue de manger, ça, pas que la soupe refroidisse. Donc, ça ne nous bouscule pas tant que ça. Par contre, se poser la question, mais qu'est-ce que concrètement je dois mettre en place pour que dans mon quartier, dans ma famille, parmi mes proches, dans mon milieu professionnel, etc., social, etc., je puisse faire quelque chose pour qu'il y ait moins de souffrance, ça, le Bodhisattva est à l'œuvre. C'est plus difficile. Mais le Bouddha n'a jamais dit que c'était facile. Alors à nous d'expérimenter, mais d'expérimenter aussi qu'il y a cette possibilité de développer cette bodhicitta, de développer ce potentiel qui est en nous. « Donc voilà, c'est ce que dit le texte, faire naître la bodhicitta pour libérer tous les êtres illimités en nombre et par conséquent la pratique de bodhisattva. Dans les strophes précédentes, on voyait plutôt comment le bodhisattva devait travailler sur lui-même, qu'est-ce qu'il devait mettre en place pour être lui-même, pour être un bodhisattva. Là, on commence à voir avec cette dixième strophe, quelle est l'activité qu'il doit développer. Voilà, Rinpoche dit, Tomé Zangpo ici met en lumière l'insuffisance de notre propre libération individuelle. Nous ne sommes pas seuls en ce monde, donc nous ne pouvons pas laisser les choses telles qu'elles sont. Nous devrions nous mettre cela en tête, dit Rinpoche, en pensant, je ne suis pas le seul à souffrir. Il y a des millions d'êtres sensibles comme moi qui aspirent de la même manière à être heureux et à se débarrasser de tous leurs problèmes. Depuis les temps sans commencement, je suis né dans le samsara. D'un père et d'une mère, et à mon tour j'ai été le parent d'enfant. Tous les êtres doivent avoir été soit mon parent, soit mon enfant, et de la même manière que j'aime ma famille en cette vie, j'ai une raison de me sentir lié à tous les êtres sensibles. Quel que soit le bien que je souhaite à ceux qui me sont proches à présent, je souhaite la même chose pour tout le monde également. Bon, ça c'est vraiment prendre conscience de l'interdépendance de toutes choses, et que notre existence, à chaque instant, elle dépend de centaines et de milliers d'êtres, même si nous n'en sommes pas absolument conscients, quoi. Nous ne pouvons pas vivre une seconde sans être interdépendants. Ça m'avait frappé, je vous l'ai peut-être dit, mais c'était l'année dernière aux assises interreligieuses organisées par la région d'Alsace, puisque c'est la seule région, enfin maintenant c'est plus la région, mais c'était en tout cas la seule région où en France il y avait un comité interreligieux qui existait, organisé et soutenu par la région elle-même, par le conseil régional. Et aux assises de ce comité interreligieux, le thème était la fraternité, pourquoi être fraternel ? Alors chaque représentant de toutes les religions avait en gros 10, 15 minutes, 10 minutes pour exposer son truc. Et j'avais été très surpris avant que j'expose pourquoi dans le bouddhisme on parle beaucoup de compassion, etc. C'est simplement parce qu'on a cette notion très forte de l'interdépendance. On ne peut pas ne pas être fraternel. Simplement par cette notion d'interdépendance. On dépend tellement pour exister, et bien des autres. Notre existence dépend de l'harmonie, de cette bodhicitta qu'on met en place, parce que nous sommes interdépendants. Et toutes les autres religions, toutes, les juifs, les chrétiens, les catholiques, les protestants, les musulmans, les orthodoxes, les Bahaïs aussi, tous ont dit, nous sommes fraternels parce que Dieu le demande. Parce que c'est écrit dans la Bible, dans le Talmud, dans le Coran, etc. Alors chacun y allait avec ses textes, les hindouistes aussi, pareil. Donc c'était plus une espèce de contrainte, si vous voulez. La voix nous demande, notre voix spirituelle nous demande d'être fraternel, donc on acquiesce. Et on s'engage à être fraternel. Et ce n'est pas basé, je trouve, cet engagement n'est pas basé sur une compréhension. Dans le dharma, on est obligé d'être fraternel parce que, on est sensible à cette notion d'interdépendance. Un bodhisattva, c'est ça, quoi. Il doit comprendre ce qu'il fait, pourquoi il s'engage, et comment il peut mettre en œuvre son activité de bodhisattva. En sachant que nous sommes des bodhisattvas en herbe, je suis bien d'accord. Mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Après, si nous ne pouvons pas faire plus, comme dit Rinpoche, eh bien, quand vous avez fait le maximum, vous ne pouvez pas faire plus. Donc tout va bien. Donc Rinpoche dit mettre en œuvre la bodhicitta est la pratique principale d'un bodhisattva. Nous devons pourtant admettre que souvent notre compassion pour autrui n'est pas si forte et a besoin d'être cultivée. Rinpoche précise, cela doit être fait progressivement, d'abord en comprenant que tout comme je souhaite être heureux pour toujours et être libre de tous mes problèmes, tous ceux qui sont pris dans l'état d'esprit samsarique, les êtres innombrables d'un bout à l'autre des univers dans l'espace infini, ont le même désir et le même droit d'atteindre la libération finale. Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre eux ne savent pas comment réaliser ce souhait. Et Rinpoche dit, maintenant que j'apprends comment le faire et que je fais des efforts pour voir la vraie nature de toute chose, je dois aider autrui à en faire autant. Si je ne partage pas ce que j'apprends, ma vie n'a que peu de raison d'être. C'est la motivation d'un bodhisattva. Plus notre motivation croît, plus nous aurons de confiance en la voie et en l'état d'éveil. À mesure que notre confiance grandira, nous voudrons partager ce que nous aurons appris avec tous les autres êtres. C'est la manière dont nous développons notre état d'esprit. Partager ce que nous avons appris, c'est surtout par l'exemple. Hein. Il n'y a pas de serment à faire et aller sur la place publique en disant, mais vous savez, voilà ce que je propose, et c'est génial. Quoi. Hein? Non, c'est plutôt par notre exemple. Donc, cette strophe, elle met l'accent sur mon activité en tant que bodhisattva. Et on doit tous se poser cette question. Et se dire, eh bien, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour qu'il y ait moins de souffrance autour de moi. Vous imaginez si tout le monde, si tous les êtres avaient ce souci et cherchent à répondre, à mettre en œuvre cette question-là. Ça tournerait plus rond, hein, je pense. Alors, peu importe ce que font les autres ou ce qu'ils ne font pas, nous n'avons pas à juger, à porter un regard accusateur ou... nous sommes responsables de ce que nous faisons, nous, chacun d'entre nous. Et on doit se dire, qu'est-ce que je mets en place? Et c'est pourquoi, alors, comme cette tendance, on va dire, eh bien, n'est pas ordinaire pour notre esprit, puisque notre esprit est dans un état samsarique, il cherche d'emblée à se satisfaire d'abord lui. Ça, c'est le mode de fonctionnement d'un état d'esprit samsarique. Donc forcément, nous devons le travailler de façon à ce que cette bodhicitta, elle devienne eh bien, la chose la plus importante pour l'esprit. Mais ça ne peut pas se produire si on ne maintient pas cette orientation donnée à notre esprit. Et c'est pourquoi tous les matins, eh bien, on doit développer ce qu'on appelle cette force de l'impulsion en se disant, alors vous pouvez vous appuyer sur cette phrase qu'on trouve dans l'entraînement de l'esprit, hein, qui est à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je ne me séparerai pas des deux aspects de la bodhicitta. Et heureusement qu'il y a la phrase, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée. Parce que alors jusqu'à l'éveil, j'ai le temps. Mais jusqu'à la fin de cette journée, qu'est-ce que je vais mettre en place sur la bodhicitta relative, mais également concernant la bodhicitta ultime. Et le soir, on fait un petit bilan. Où est-ce que j'en suis dans la bodhicitta? Est-ce que j'ai pensé, est-ce que j'ai eu des rappels concernant ces deux aspects de la bodhicitta? Non, eh bien il faut que je développe davantage de vigilance demain matin, hein. Oui, eh ben c'est très bien, mais je ne dois pas relâcher ma vigilance. Jusqu'à ce que ça devienne en fait naturel pour l'esprit. Il ne faut pas imaginer que les bodhisattvas accomplis ont eu cette bodhicitta vaste et équanime que l'on peut ressentir quand on est proche d'eux, comme ça naturellement. Hein. Ils ont travaillé sur leur esprit. Et il n'y a pas de différence entre le Bouddha et nous. Hein. Entre tel Rinpoche et nous. Le Dalai Lama, il est comme il est, mais pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, il a travaillé et transformé son esprit. Donc, à nous de transformer le nôtre. Quoi. Alors, Ça, c'est un engagement qu'il faut prendre. Et c'est un peu le thème, entre autres, de la 12e strophe, non, de la 11e, pardon, qui dit « Toutes les souffrances, sans exception, jaillissent de notre désir de bonheur personnel. Un parfait Bouddha naît d'un esprit décidé à accomplir le bien-être d'autrui. En échangeant réellement notre bonheur contre les souffrances d'autrui, nous nous engagerons donc dans la pratique d'un bodhisattva. » Je vous la relis. « Toutes les souffrances, sans exception, jaillissent de notre désir de bonheur personnel. Un parfait Bouddha naît d'un esprit décidé à accomplir le bien-être d'autrui. En échangeant réellement notre bonheur contre les souffrances d'autrui, nous nous engagerons donc dans la pratique d'un bodhisattva. » Alors comment vous expliquez « Toutes les souffrances, sans exception, jaillissent de notre désir de bonheur personnel ?» Vous êtes sûr d'abord de ça? Comment?
Parce qu'on ne peut pas le satisfaire. C'est parce qu'on ne peut pas le satisfaire qu'on n'arrive pas à que...
La saisie.
Oui.
La saisie cultive.
Parce qu'on est toujours déjà insatisfait.
Pardon?
On est toujours insatisfait.
Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette insatisfaction? Qu'est-ce que vous avez dit? La saisie. La saisie. Quand il n'y a pas de saisie, l'esprit est clair, détendu, vaste et totalement en paix. Dès qu'il y a saisie, il y a crispation de l'esprit, tension dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle apparition de dukkha, la souffrance sous ses multiples formes. Donc quand il dit « toutes les souffrances, sans exception, jaillissent de notre désir de bonheur personnel », c'est-à-dire donc cette saisie égotique qui se manifeste, et moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. S'il en reste, ok, je suis généreux. Mais moi d'abord. La petite sphère, là, la petite bulle, il faut pas l'atteindre, il faut pas la toucher, quoi. Tout ce qui est en dehors de la bulle, ça, oui, ça va, je peux donner, ok. Mais la bulle, on touche pas. Et là, il y a une très forte saisie. La saisie, c'est l'origine des facteurs perturbateurs sous l'emprise desquels on accomplit des actes négatifs, et ben les effets seront de la souffrance. Et rien que par le fait de saisir, même avant d'agir, il y a dukkha qui apparaît dans notre esprit. Et ça, vous devez être sûr de ça. Vous ne devez pas accepter ça parce que Thomé Zampo le dit. Hein. Observez le fonctionnement de votre esprit et voyez dans quel état il se trouve lorsque vous saisissez bien quelque chose, quoi. Et ça, on en fait tous l'expérience. On est toujours en train de saisir. C'est ça l'état d'esprit samsarique. Et j'aime bien Rinpoche, il ne parle pas de se libérer du samsara. Il parle de se libérer de l'état d'esprit samsarique. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau. On entend toujours qu'il faut se libérer du samsara. Se libérer du samsara, la plupart des gens, même des pratiquants, pensent que le samsara, c'est la planète sur laquelle on vit. Donc se libérer du samsara, eh bien, il faut se tirer d'ici et aller sur sans doute une autre planète qu'on appelle le nirvana. Vous avez des sectes qui ont fonctionné comme ça. Elles ont tué leurs membres pour qu'ils reprennent naissance sur Sirius ou je ne sais où, etc. Par contre, quand Rinpoche dit il faut se libérer de l'état d'esprit samsarique, l'état d'esprit samsarique, il se trouve où? Dans mon esprit. Il ne se trouve pas sur cette planète. Et même si je vais sur Sirius, j'y vais avec mon esprit. Donc, s'il est samsarique, eh bien, le samsara se retrouvera là-haut.
Finalement, c'est pas mal de perdre l'esprit.
C'est enregistré, je vous signale. Non, mais c'est très bien. Mais... se libérer de l'état d'esprit samsarique, ça veut dire se libérer eh bien, de cette confusion engrangée, maintenue, entretenue par cette saisie égotique. Tant que nous n'avons pas déraciné l'ignorance fondamentale, cette saisie, elle sera présente. Et donc la souffrance continuera d'être présente. Ensuite, un parfait Bouddha naît d'un esprit décidé à accomplir le bien-être d'autrui. c'est bien le terme d'un esprit décidé. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui décide, une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il a le sens de l'engagement. C'est pourquoi les vœux de bodhisattva existent, aussi bien dans le Mahayana Sutra comme dans le Zen, que dans le Mahayana Tantra, dans le Vajrayana. Et c'est pourquoi Rinpoche dit toujours « Don't try to do it, do it ». On ne va pas passer, un bodhisattva ne peut pas passer sa vie à essayer de. Il fait. Et c'est cette détermination eh bien, que l'on sent chez lui, que l'on sent chez tous les Rinpoche, que l'on sent chez le Dalai Lama, et je peux vous dire que chez le Dalai Lama, eh bien, c'est percutant sa détermination, à tel point qu'il est moins cool en coulisses que sur la scène. Hein. Sur la scène, il est tout souriant, mais en coulisses, je peux vous dire qu'il faut que ça file. Et son activité de bodhisattva, il sait où il va, il sait comment la mener, il ne faut pas lui faire obstacle. Hein. Il ne faut pas le mettre en retard. Et tous les bodhisattvas sont comme ça. Avec ou sans étiquette, bouddhiste ou autre. Ils sont déterminés parce qu'ils ont réalisé, vraiment intégré, expérimenté, que la souffrance, ça ne peut pas attendre. S'ils attendent, il y a des êtres qui souffrent. Il faut faire quelque chose autant que nous le pouvons pour les êtres. Mais ça, ça se décide. On prend l'engagement. On n'attend pas d'être parfait pour agir, quoi. Beaucoup de personnes disent « Non, non, moi je ne veux pas prendre les vœux de Bodhisattva parce que je vais les briser. » Le jour où nous aurons une parfaite Bodhicitta, nous n'aurons plus besoin de prendre des vœux. Les vœux, prendre des vœux, quels que soient les vœux, prendre des vœux, ça fait partie du chemin. C'est un engagement que l'on prend eh bien, pour travailler, pour être sûr de travailler sur notre esprit. Parce que sans les vœux, on passe son temps, on passera notre temps à dire « je vais essayer, je vais m'efforcer, etc. » Ce n'est pas suffisant. C'est exigeant, la pratique d'un bodhisattva. Donc, il faut avoir cette exigence. Cette détermination, eh bien, c'est ce que l'on sent chez tous les grands bodhisattvas. Et à tel point que l'activité d'un bodhisattva, quand il y a un obstacle à cette activité, le bodhisattva a quatre façons de surmonter la difficulté, surmonter l'obstacle. La première façon, c'est vraiment la méthode douce. Il explique, c'est la pacification on appelle. Il explique pourquoi il agit comme ça. Voilà. Si l'obstacle n'est pas réduit après ça, est toujours là, alors il va utiliser une deuxième façon, qui va être beaucoup plus ferme, on va dire. Et puis, si l'obstacle demeure, eh bien, ça sera une fermeté, mais sans discussion possible. Et si l'obstacle persiste, c'est la destruction de l'obstacle. Le bodhisattva détruit l'obstacle. Ça, c'est les quatre activités de bodhisattva. Et alors j'ai vu un jour Rinpo Rinpoche agir comme ça. Lui qui est tout souriant, hein, qui est tout nounours, quoi. Pardon. Mais je l'ai vu comme ça lors d'un séminaire d'été. Et dans sa chambre, il y avait une personne qui commence à lui demander quelque chose. Et Rinpoche lui dit « Non, non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, voilà. » Mais Rinpoche était sur son canapé, sans doute en train de répondre à un mail, comme d'habitude. Voilà. La personne a insisté, elle est revenue à la charge. Alors Rinpoche lui a dit cette fois, beaucoup plus fermement, « Écoutez, je vous ai répondu, voilà, et, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, point, point. » La personne est revenue encore à la charge. Cette fois, Rinpoche a laissé tomber ce qu'il faisait, il s'est levé et il lui a dit « Écoutez, maintenant, je vous ai dit comment il fallait faire, ça va, quoi. » D'un air de dire « On ne négocie plus. » Et la personne a insisté. Eh bien, Rinpoche a ouvert la porte et il lui a simplement dit « Maintenant, dehors. » C'est-à-dire plus d'obstacles. Il a, il a écarté l'obstacle. C'est-à-dire que la bodhicitta, c'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas, comme dit ce gars Rinpoche, caresser l'ego dans le sens du poil, quoi. Et ça, c'est mal compris en Occident, hein. Il faut être gentil avec tout le monde. C'est ça la bodhicitta, quoi. Je suis désolé, c'est pas toujours comme ça la bodhicitta. Il faut savoir dire non. Et il faut connaître ses limites. Alors savoir dire non, vous l'avez fait en tant que parent, quoi. Vous n'avez pas toujours dit oui à tout ce que vous demandaient vos enfants. Quand votre gamin ne voulait pas se lever pour aller à l'école, vous avez utilisé la méthode douce, après plus ferme, et puis à un moment donné, vous avez dû lui dire, bon maintenant ça suffit, dans 10 minutes on part, donc tu te prépares, quoi. Et là, il n'y a plus de discussion possible. Bon, vous ne l'avez pas acheté hors de la maison, style quatrième activité, destruction. C'est pas vraiment ça. Hein? Mais la bodhicitta, c'est pas dire oui à tout. Et puis, ça implique qu'on doit connaître nos limites. Et un bodhisattva doit très bien connaître ses limites. C'est-à-dire que s'il dépasse ses limites, eh bien, il sait qu'il ne pourra plus être efficace, présent en tant que bodhicitta, ni pour lui, ni pour autrui. La patience, on dit, a des limites. Ben, forcément. Et ces limites-là, si on les connaît, c'est, je pense, faire preuve de sagesse, de réflexion, de discernement, de bon sens aussi. Et les limites que nous pouvons poser aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, grâce à notre pratique, eh bien, elles seront posées un peu plus loin. Ça, d'accord. Mais nous devons réfléchir à ça aussi dans notre activité de bodhisattva. Et enfin, dans cette activité de bodhisattva, nous sommes en chemin, donc il y a des situations où l'on faillira par rapport à cet engagement. Bon, ben ça, ce n'est pas grave. Il faut repartir et retravailler sur ces deux aspects de la bodhicitta encore et encore. C'est un travail, ça, quotidien. Et alors, la suite du texte dit « En échangeant réellement notre bonheur contre les souffrances d'autrui, nous nous engagerons donc dans la pratique d'un bodhisattva. » Alors, ça, c'est la pratique de Tonglen, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que ce que nous ne pouvons pas faire concrètement par le corps et par la parole pour aider autrui, on peut le faire encore par la pensée. Et cette pratique de Tonglen, ça consiste à visualiser un être qui souffre, à imaginer, parce que je ne peux pas faire concrètement quelque chose pour cette personne, donc imaginer que sa souffrance prend l'aspect d'une lumière noire, et quand j'inspire, cette lumière noire, symbole de la souffrance de cette personne, eh bien sort de cette personne et entre en moi, par le fait d'inspirer, et vient se dissoudre totalement au niveau du chakra du cœur. Et par contre, quand j'expire, eh bien c'est une lumière de paix, d'amour, une lumière blanche, qui sort par mes narines et qui est offerte et qui vient baigner la personne en face. Ça, c'est ce qu'on appelle la pratique de Tonglen. Tong, c'est envoyer, Len, c'est prendre. J'envoie du bonheur, mais je prends la souffrance. Alors, cette pratique, si vous le faites pour quelqu'un dont vous connaissez la souffrance et qui vit à 10 000 km, effectivement, ça ne va pas changer la situation. Mais ça va changer la perception qu'en a mon esprit. C'est-à-dire que, à l'état ordinaire, c'est je veux bien aider les êtres, mais c'est moi d'abord. Par cette pratique, eh bien, je prends la souffrance et je donne de l'amour et de la paix. L'esprit ne sera pas forcément tout à fait d'accord pour faire cette pratique. Et il peut rechigner. Donc, la pratique de Tonglen, on dit qu'il faut commencer cette pratique pour habituer notre esprit en visualisant une personne de nos proches, une personne pour qui nous avons de l'amour. Imaginez votre enfant, et vous le visualisez en face de vous, mais c'est automatique que vous faites ça. Vous allez le faire automatiquement. C'est évident pour vous de prendre la souffrance de votre enfant et de lui donner tout l'amour que vous avez, quoi. Ça, c'est intéressant de faire cet exercice et de voir ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là. L'intensité avec laquelle vous pouvez faire cet exercice pour votre enfant ou un proche pour qui vous avez un fort sentiment d'amour. Ça démontre l'intensité, la puissance de cette potentialité que nous avons tous en chacun de nous. Elle est là. Ce potentiel est énorme. On ne le vit pas avec cette intensité à chaque instant. Mais de temps en temps, on peut sentir cette intensité. Et quand l'esprit est habitué à faire cette prise en charge, on dit, cette méditation, alors on visualise d'autres personnes pour qui on n'a pas spécialement d'affection, mais on n'a pas d'aversion. On connaît les piscines du coin, les commerçants, voilà. Et on visualise de façon à pouvoir étendre cette méditation à d'autres êtres que nos proches. Et ensuite, on englobe dans cette méditation tous les êtres qui souffrent. Et notamment tous nos ennemis, entre guillemets. Les personnes qui nous ont fait du tort il y a 30 ans et qui, quand on y pense encore, ça coince encore un petit peu, c'est la meilleure pratique pour décoincer justement ces tensions. Et ce n'est évidemment pas facile de visualiser une personne, par exemple, qui nous a fait souffrir. Donc, il faut habituer notre esprit par la façon de faire, comme on l'a vu précédemment. Là aussi, c'est une pratique progressive. Et quel est le meilleur moment pour faire cette pratique? En regardant la télé. Et notamment le journal télévisé. Parce qu'alors là, vous avez de quoi faire. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des catastrophes. Personne ne sait que vous pratiquez en regardant la télé. Mais au moins là, vous avez un bon support pour faire la pratique de Tonglen. Et à ce sujet, Lama Tenpa Gyamso, qui vit en ermite depuis 88, il regarde tous les soirs le journal télévisé. Parce qu'il dit que ça lui sert de support pour sa pratique. Il oriente, si vous voulez, la bodhicitta en connaissant ce qui se passe dans le monde. Donc, regardez la télé décomplexée. Donc, que dit Rinpoche sur cette strophe? En faisant passer en premier nos désirs et nos répugnances, nous sommes dans l'état d'esprit samsarique, attachement, aversion. Et nous ne pouvons pas du tout résoudre notre problème principal. La seule manière de le faire, c'est d'ouvrir nos cœurs et de faire passer autrui en premier. Nous devrions essayer de faire face à nos peurs et à nos aversions et essayer d'accepter ce que nous n'aimons pas. Et nous devrions essayer de partager ce que nous avons ou ce que nous désirons, tout ce qui nous semble être le plus important. C'est la pratique de Tonglen. Bien que ce soit là une des pratiques les plus importantes d'un bodhisattva, cela ne signifie pas que nous devions sur le champ le faire dans la vraie vie. C'est l'idéal, bien sûr, comme Shantideva le dit dans le Bodhisharyavatara. Mais la pratique de l'échange est d'abord effectuée de manière méditative au moyen d'une visualisation. Plus cette pratique nous rend capable de nous ouvrir, de devenir moins égoïste et de diminuer nos aversions, plus nous gagnons en liberté. Nous devenons plus libres, sans peur et compatissants. Alors quand Rinpoche dit « Plus cette pratique nous rend capable de nous ouvrir, de devenir moins égoïste et de diminuer nos aversions, plus nous gagnons en liberté. » C'est par cette façon d'observer notre esprit que nous pouvons évaluer si notre esprit se transforme, s'il évolue, s'il va dans le bon sens. Est-ce qu'il y a moins de saisie égotique, donc moins d'égoïsme? Est-ce qu'il y a, comme il dit, plus d'ouverture, moins d'aversion? Les peurs aussi diminuent. Tout ça, ça veut dire que la saisie, elle diminue. Diminution de la saisie, ça ne veut pas dire avoir des phénomènes qui se passent quand on médite, quoi. des phénomènes de, j'en sais rien, de il y a des personnes qui voient Chenrezig dans un arbre, il y a des personnes qui entendent des sons bizarres, qui voient des lumières clignoter je ne sais où. Non, il n'y a rien de tout ça qui doit se passer obligatoirement, quoi. Les seuls critères qui nous permettent vraiment de valider notre pratique, c'est plus d'ouverture, en gros la bodhicitta relative qui se développe, donc moins de facteurs perturbateurs, moins de peur et moins de saisie égotique, donc la bodhicitta ultime, eh bien, elle se développe également. Et ça, c'est facile à observer dans son esprit, hein. Et je pense que l'observation de notre propre esprit, eh bien, ça peut tromper tout le monde, mais ça ne nous trompe pas nous-mêmes. Hein. Parce que la perception des uns et des autres, c'est lié au conditionnement des uns et des autres. Alors, la perception, on peut vous flatter dans tous les sens du poil, on peut vous critiquer dans tous les sens du poil, ça, c'est la perception de celui qui flatte ou qui critique. Ça ne veut pas dire que vous êtes exactement comme ça. Par contre, ce que vous êtes, vous seul, vous pouvez vraiment le savoir, en observant ce qui se passe dans votre esprit. Alors, Rinpoche dit, la pratique de Tonglen n'implique pas que, lorsque quelque chose va mal, nous devions serrer les dents et penser, je suis un grand bodhisattva compatissant, et ensuite, essayer d'être à la hauteur de l'idéal. Nous avons besoin de travailler lentement et graduellement sur la pratique. Le Bouddha a dit que si nous pouvions donner un bol de curry sans regret, alors nous devrions donner un bol de curry. Quand nous serons devenus moins égoïstes et plus courageux, et que nous serons capables de donner nos vies pour autrui sans aucun regret, alors nous devrons donner nos vies. Ne pas respecter nos capacités et nos limites serait une manière d'agir totalement erronée. La manière habile de devenir un bodhisattva est de commencer humblement à notre propre niveau et d'améliorer lentement nos capacités. Alors qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est la même racine que l'humus. Et je trouve ça intéressant parce que être humble, ça ne veut pas dire devenir une espèce de paillasson. Hein. Être humble, ça veut dire revenir à nos sources, revenir à nos racines. Revenir aux fondamentaux. Pourquoi suis-je pratiquant du Dharma? Pourquoi un jour j'ai décidé eh bien, de devenir bouddhiste? Pourquoi suis-je un bodhisattva? On doit régulièrement se reposer ces questions, hein, et développer cet esprit de débutant qui était si cher au précédent Kalo Rinpoche. Il nous disait toujours « gardez votre esprit de débutant ». Vous savez, la voie, c'est pas toujours facile, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir une lassitude. On a peut-être plusieurs d'entre vous, en tout cas moi j'en ai connu, des personnes qui étaient très déterminées dans le Dharma à une certaine période. Aujourd'hui, elles sont à 100 lieues du Dharma, elles ont tout envoyé par la fenêtre et elles vivent tout à fait autre chose. Ce qui veut dire que la motivation que nous pouvons ressentir aujourd'hui, eh bien elle n'est pas éternelle. La motivation, c'est un phénomène comme les autres. Donc, je pense qu'elle s'entretient et qu'elle se développe par notre attention et par le renouvellement de cette motivation. Et garder son esprit de débutant, eh bien, c'est quelque chose à laquelle on devrait revenir régulièrement. Surtout quand on commence à avoir quelques années de pratique et d'études, hein. Moi, je sais. Il faut beaucoup se méfier de l'orgueil. Hein. Bon, là, il réexplique la pratique de Tonglen. Là, il explique aussi une histoire, il relate une histoire dans laquelle, enfin, qui démontre que notre activité de bodhisattva, elle doit vraiment être accompagné de sagesse, de discernement et de réflexion. Cette histoire, c'est qu'à une certaine époque en Inde, il y a quelqu'un qui avait vraiment pris cet engagement de bodhisattva et l'avait dit à tout le monde. et disait à tout le monde, eh bien, demandez-moi ce que vous voulez en tant que bodhisattva, eh bien, je vous l'offrirai, quoi. Jusqu'au jour où il y a un bonhomme qui est venu et qui lui dit, ben, je veux ta main droite. Ben, le mec, aussitôt, il s'est tranché la main et il lui a offert la main droite. Sauf qu'en Inde, vous ne pouvez pas accepter quelque chose quand vous l'offrez avec la main gauche. Donc, il a compris qu'il était ridicule, quoi, et qu'il était allé beaucoup trop loin, il n'y avait pas de discernement, etc. Ça veut dire aussi que ça nous arrive, pas ce genre de choses, mais ça veut dire qu'on peut être très maladroit dans notre façon de mettre en place, notamment la bodhicitta relative. Quelquefois, on insiste beaucoup alors que l'autre n'a rien demandé, quoi. Ça peut être comme ça. Hein. Moi, je me souviens pour les cours de soins palliatifs, on nous avait dit, il y a un verbe que vous ne pourrez plus conjuguer à partir d'aujourd'hui, c'est le verbe faire. Vous n'avez rien à faire quand vous êtes auprès d'une personne en train de mourir. Vous n'avez rien à faire, vous avez à être. Et vous êtes là par votre présence pour l'écoute. Et vous n'avez pas à faire quelque chose, surtout si la personne nous a rien demandé. Et c'est pas inintéressant de réfléchir de cette façon. Voilà, donc pour les fêtes, eh bien, travailler sur cette bodhicitta et comment être un bodhisattva et retenez peut-être, enfin un point moi qui me semble important dans ces deux strophes, c'est qu'un bodhisattva décide, prend l'engagement. C'est pas, rappelez-vous ce qu'on disait au tout début du Mahayana, un bodhisattva ce n'est pas de l'eau tiède. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ?
Oui, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout au début, quand vous avez parlé de don.
Comment être libre des trois formes de saisie ?
Et par rapport à la personne à qui vous donnez, quelle est cette liberté-là ?
Alors, Kalon Rinpoche disait donner. Peu importe ce qu'il va faire, ne donnez pas parce que vous êtes ému, parce que cette femme a un bébé dans les bras, ou, etc. Il disait, essayez de pratiquer la générosité avec équanimité. Pas parce que nous sommes touchés. C'est pas facile, hein. Voilà, on devrait s'efforcer de travailler cette paramita avec équanimité, c'est-à-dire... Même celui-ci en a autant besoin que l'autre, quoi. Alors, Kalon Rinpoche disait aussi, quand vous ne pouvez plus donner, eh bien, vous ne pouvez plus donner. Mais tant qu'on peut donner, on doit donner, quoi. Alors, il disait, mais faites-vous un budget. Si vous ne devez donner que 2 euros par jour, eh bien, voilà, donnez 2 euros. Mais ne donnez pas un euro deux fois. Donnez 20 centimes 20 fois, quoi. Non, ou 10 fois, je ne sais pas. Voilà, oui, plutôt. Mais essayez de donner le plus possible. Voilà. Et c'est très difficile hein, d'agir en étant libre des trois formes de saisie. Hein. Ça, c'est très difficile, évidemment. Mais... le sachant, on peut s'efforcer de ça. On peut observer en tout cas ce qui se passe dans notre esprit quand on donne. Pourquoi on donne, par exemple ? Essayez d'observer la motivation qui fait que vous avez accompli ce geste-là. Soyez conscient. Pas d'autres interventions ? Vous êtes de moins en moins bavard à Nancy. Hein. Il y a des tuelings où ça fuse, mais Nancy, maintenant, vous êtes très calme. À une époque, il y avait beaucoup de questions, vous vous souvenez? Hein?
Ouais. Je pense qu'en fait, dans ce petit ton là dont vous parlez, en fait, la personne qui est là, c'est-à-dire que on rentre en relation avec une personne. Mais enfin, moi, je le vois comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est un échange.
Oui.
Et la personne à qui l'on donne, elle remercie, elle dit quelque chose, elle regarde. Donc, c'est un échange. Mm-hmm. Enfin, moi, je vois ça comme mm-hmm. ça.
Oui, et il n'y a pas...
C'est une relation humaine.
C'est ça.
Bon, bien moi, je tombe sur des gens que je connais quelquefois, qui sont dans la rue, mais que ce sont des gens que je connais. En étant effectivement comme si on se disait bonjour, enfin voilà, comme si on est en relation, disons.
Ouais, ouais. Et le don n'est pas seulement le don matériel. Hein. Mmh. Vous connaissez les trois formes de dons. Hein. Il y a le don matériel, mais il y a le don de la protection. C'est pas rien le don de la protection. C'est. Et puis, il y a le don du dharma. Hein? Mais le don de la protection fait partie de cette paramita. Quoi. Donc, et puis, le don, effectivement, ça peut être un sourire, ça peut être un regard, ça peut être une attitude, une présence. Hein? Quelquefois, ça peut faire plus chaud au cœur à la personne que de lui donner 50 centimes. Hein? Donc il y a de multiples formes de dons. Si nous gardons ça en mémoire, si dans la force de l'impulsion le matin, eh bien on se dit, aujourd'hui je vais travailler sur cette paramita, plus particulièrement sur cette paramita du don, on trouvera de multiples façons de donner hein, au cours de la journée. Voilà, mais c'est ce qui doit habiter quand même l'esprit du bodhisattva. Est-ce que des personnes ont apporté un courrier pour mon départ en Inde?
Oui.
D'accord, très bien. Si vous avez oublié, faites-le avant... envoyé au plus tard le 20 de ce mois, quoi. Mais le 22, je quitte Luce. Et le 23, je suis en enseignement à Strasbourg. Mais de Strasbourg, je file directement dans ma famille. Et après, je prends l'avion pour l'Inde sans repasser à Luce. Donc, disons, bloqué jusqu'au 20, de façon à être sûr que je reçoive le courrier si vous l'avez oublié, quoi. Et puis, bloqué sur vos tablettes, peut-être le premier week-end d'avril, en sachant que nous devons attendre la confirmation de Rinpoche, mais il lui a été demandé de venir à Luce le premier week-end d'avril. Voilà. Donc, maintenant, c'est lui qui a toutes les dates. Il est actuellement aux États-Unis et il n'a pas encore répondu pour dire c'est OK. On attend. Voilà, ben moi je n'ai pas d'autres nouvelles à vous faire, si c'est de vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et de bien commencer 2017. Vous savez, on souhaite toujours bonne santé. Évidemment qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un d'être malade, ça c'est sûr. Mais c'est un souhait quand même... qui peut dire qu'on sera en bonne santé en 2017. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est, quoi qu'il arrive, que votre esprit soit libre et paisible pour vivre ce qui se passe. Voilà.
Merci.
Merci. Donc, on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci. Merci.